petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Le président Trump a beaucoup agacé, par ses comportements fantasques et parfois indignes, par la tendance au n'importe quoi de ses tweets à la cantonade. Mais cependant, le philosophe ne peut guère accepter que Twitter ferme le compte de Trump le 9 janvier 2021, alors que ce président des USA est encore légalement et officiellement en exercice. Le fait est très grave. Une entreprise privée décide, au nom d'un non-respect de sa loi privée contractuelle, dont elle se proclame seule juge, de censurer un chef d'État légitime. Ses tweets devenaient de la désinformation pouvant inciter à la guerre civile. C'est possible quand on connaît un peu Trump. Mais, comme le dit Mathieu Slama dans le Figaro Vox du 8 janvier 2021, je cite « Permettre à une entreprise privée de censurer un contenu parce qu'il serait contestable, cela signifie qu'on lui accorde le droit de dire le vrai ou le faux. » Fin de citation. Twitter, qui t'a fait roi? D'où parles-tu? Quelle est ta légitimité, surtout face à un président régulièrement élu au suffrage universel? Rappelons qu'aucune mesure d'impeachment n'a jamais destitué le président Trump. Twitter est-il au-dessus de la constitution d'un État démocratique? On aurait pu croire que s'agissant des USA, la concurrence des réseaux sociaux laissait à Trump la liberté de s'exprimer ailleurs, mais non. Les GAFAM ont suivi Twitter et particulièrement Facebook. Les plateformes américaines ont créé leurs gatekeepers, c'est-à-dire leurs portiers, leurs vigiles, qui décident du droit d'entrer dans leurs débats. Le problème, il est vrai, est délicat. Un peu partout en Occident, les démocraties ont commencé à appeler les réseaux sociaux à gérer eux-mêmes leurs lignes rouges à ne pas dépasser en matière de liberté d'expression. Les fake news envahissaient, et envahissent toujours d'ailleurs, les réseaux sociaux et à très grande échelle jusqu'à nous désorienter dans des théories complotistes invraisemblables. Outre les difficultés de discernement et des relations avec les usagers que les plateformes ne veulent évidemment pas chasser, il y avait aussi des questions de réactivité et rapidité de la décision de garder ou conserver tel ou tel usager. Ce fut le cas encore en septembre 2018, où l'Union européenne acceptait une auto-réglementation à peine contrôlée, co-signée par les grandes plateformes dans le Code of Practice on Disinformation. Mais fin 2020, la Commission européenne, en lien avec le Parlement, lance le projet de Digital Service Act qui inverse la vapeur. Selon le considérant 35 de cet acte, c'est à la puissance publique et non à des entreprises privées de décider d'une régulation entre la liberté d'expression et la désinformation inacceptable. Avant l'existence des réseaux sociaux, les usagers des médias, télévision, radio, journaux, étaient passifs et subissaient les informations reçues. Grâce aux réseaux sociaux, les usagers deviennent émetteurs d'informations et de commentaires. Désormais, il y a des centaines de millions de pseudo-journalistes. D'un côté, c'est très bien, la démocratie a besoin des débats et tout citoyen en vaut un autre. La presse peut aussi d'ailleurs désinformer. Mais cette possibilité dangereuse est maintenant exponentiellement démultipliée dans les réseaux sociaux. La désinformation est même assistée par l'intelligence artificielle. Les social bots sont des comptes utilisateurs programmés pour communiquer et imiter le comportement humain afin de le dévier par petites touches, toujours cette idée de petites touches, vers l'inoculation d'une idée. Il peut s'agir de manipulation d'images et de textes. Dans le jargon, on appelle ça les deepfakes. À partir d'algorithmes, la plateforme Instagram serait bien outillée à cet égard. Le nudge, c'est-à-dire en français le coup de pouce, s'arrange par des déplacements presque subliminaux, par des signaux faibles, pour diriger nos opinions et nos humeurs. Certains internautes utilisent même les neurosciences et le philosophe Gaspard Koenig, en 2019, dans son livre « La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle », c'est aux éditions de l'Observatoire, de conclure, je cite, « l'abêtissement du débat public, l'hystérie partisane, la dictature de l'émotion et la désinformation de masse sont des conséquences directes de titillements permanents, hein, toujours cette idée de petite touche, titillements permanents que les réseaux sociaux exercent sur nos circuits neuronaux. » Fin de citation. Deux autres philosophes, cette fois belges, dans la revue Études en juin 2021, tranchent dans le vif, plutôt qu'une agora moderne, c'est-à-dire un centre de débat authentique, les plateformes de réseaux sociaux sont peut-être devenues des machines à fabriquer de l'opinion publique. C'est à cela que le Digital Service Act de fin 2020 de la Commission européenne veut mettre fin. Mais comment ? Il faut aussi sauver la liberté d'expression et pas seulement limiter la désinformation. Ça devient très complexe. On sent bien qu'il ne suffit pas de détecter et d'interdire le racisme, l'appel à la violence, la diffamation ou la pédopornographie. Dès 1976, la Cour européenne des droits de l'homme défend l'expression des opinions provocatrices, des opinions dérangeantes, voire fausses. Le scandale ne peut pas être interdit, car pour qu'il y ait scandale, il ne suffit pas que s'exprime du scandaleux. Il faut aussi des gens qui soient scandalisés. Bref, l'opposition de deux points de vue, a priori, tous deux légitimes. En revanche, la désinformation condamnable est celle dont la seule intention est de tromper, de nuire, et non de défendre un contenu. C'est bien la position ferme mais subtile du Digital Service Act de la Commission européenne fin 2020. L'anthropologie met rapidement en évidence que la liberté d'expression inclut d'emblée la liberté du mensonge. Pour la plupart de ses contemporains, Galilée ment en disant que le soleil est au centre, car on voit bien que le soleil se lève et qu'il se couche en tournant autour de la terre. Le poète ment, car par exemple Paul Valéry, dans le premier vers de son Cimetière marin, écrit « Ce toit tranquille où marchent les colombes », car il parle du calme plat de la mer où naviguent des bateaux à voile. Le mensonge, c'est-à-dire la possibilité de penser et dire autre chose que le réel présent, est une marque de l'humanité de l'homme. L'abeille, extraordinaire communicante, ne ment jamais. Ses signes indiquent la réalité à ses congénères. Mais l'abeille n'est pas capable de progrès. Elle n'est pas capable de se mettre en question. Elle n'est pas capable d'envisager un autrement que ce que son espèce lui commande de faire. Si l'homme progresse, c'est que ces mots, son vocabulaire, peuvent avoir plusieurs sens, plusieurs métaphores. Interdire toute forme de mensonge, ce serait interdire l'homme. Et le mensonge, en science et en art, peut devenir vérité. La liberté d'expression est la condition du progrès et de la perfectibilité. Celle, à un moment, de mentir par rapport au scientifiquement correct, comme Louis Pasteur quand il invente le vaccin, ou mentir par rapport à l'artistiquement correct, comme les impressionnistes dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ou bien mentir par rapport au politiquement correct, par exemple le tirage au sort plutôt que l'élection dans certains cas. Alors comment faire? Laisser en l'état les réseaux sociaux et la déliquescence du débat? Le Digital Service Act s'oriente beaucoup plus positivement. Plutôt que mal censurer la désinformation, élargir des sources plus sûres d'informations, soutenir et développer un journalisme déontologique et de qualité pour insuffler dans le chaos des réseaux sociaux ce qui peut-être s'enraciner comme éventuelle référence. La revue Étude de juin 2021 nous invite à l'humilité. Que chaque internaute ou usager des plateformes ait le courage de reprendre ses tweets vieux d'un an, écrits à l'époque sous l'emprise d'une humeur et éventuellement le corriger compte tenu du temps passé. Tout ça est bien subjectif, mais la subjectivité n'est pas un gros mot. Elle colle à l'humanisme beaucoup plus que les algorithmes des machines à surveiller les dérapages des internautes.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.